Radio Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Merci à vous qui venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix et même merci aux internautes qui sont branchés en ce moment et qui nous suivent sur les plateformes digitales de Radio Capi. Nous allons parler développement, comment repenser le développement de la République démocratique du Congo. Nous avons en ligne Monsieur l'abbé Chibaka Chikongo qui est le président du colloque interdisciplinaire d'un Gandajika qui venait d'être organisé la cinquième édition évidemment qui venait d'être organisée tout récemment en Gandajika. Monsieur l'abbé Apollinaire Chibaka, bonjour. Bien, on va le relancer dans quelques instants. Des questions et préoccupations, appelez-nous déjà au 099 706-99-41, écrivez-nous à service@radiocapi.net. Jean-Claude Thiel à la mise en onde, Jonathan Chimanga s'occupe du live sur les plateformes digitales de Radio Capi. Tati Mapoukou à la coordination et à la réalisation. Au micro jeudi, Daniel Kachama, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bien, encore une fois, bienvenue dans cette émission qui s'intéresse au développement de la RDC, comment repenser le développement de notre pays. Vous savez, tout récemment, les éditions d'Itunga ont organisé le cinquième colloque interdisciplinaire de Ngandajika. C'était du 30 octobre au 1er novembre dernier, autour du thème « Les rêves congolais de développement, relecture de quelques expériences publiques et privées ». Alors, qu'est-ce qui a été dit au cours, lors de ces colloques interdisciplinaires par rapport au développement de la RDC? Quelles sont les causes persistantes du sous-développement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable? Monsieur l'abbé Apollinaire Chibaka est le président de ce colloque interdisciplinaire d'Ngandajika. Monsieur l'abbé Apollinaire Chibaka, bonjour.
Bonjour, Jodine Kachama.
Bienvenue dans cette émission. Nous parlons du cinquième colloque interdisciplinaire d'Ngandajika qui a eu pour thème les rêves congolais des développements, relecture de quelques expériences publiques et privées. Pourquoi les choix de ces thèmes?
Bon, peut-être vous allez me permettre, pour que les gens le comprennent, peut-être que je présente un peu tous les processus, parce que c'est le cinquième colloque interdisciplinaire qu'on organise. Mmh. Le premier a eu lieu en 2021. Il avait pour thème le village et l'avenir de l'Afrique noire. Le deuxième en 2022, l'ethnie, la nation, l'église en RDC Congo, problèmes historiques et propositions pour l'avenir. Le troisième en 2023, la culture de la mort face à la culture de la vie en Afrique noire, état des lieux et perspectives d'avenir. Le quatrième en 2024, être noir entre l'héritage et la solution d'un problème. Et le cinquième, c'est celui qui a eu lieu cette année, les rêves congolais de développement, relecture de quelques expériences publiques et privées. Alors, pourquoi ce thème? Trois raisons. La première raison, c'est que cette année 2025, ça fait 140 ans que notre pays existe. Il a été créé par le roi des Belges. Cette année, ça fait 65 ans que notre pays est indépendant. Et puis, accessoirement, il y a Projet du Tonga, une petite association qui est entrée dans sa 20e année et qui travaille dans le cadre de développement. Alors, cette conjonction, si je peux dire, d'anniversaire, nous a poussé à dire, écoutez, nous, on travaille dans le domaine du développement. Est-ce qu'on peut s'arrêter pour réfléchir sur la question de développement telle qu'elle se pose dans notre pays? Voilà, donc, trois anniversaires qui nous ont invités à poser cette question-là.
Bien. Alors, nous parlons des rêves congolais du développement. Alors, s'il faut faire une relecture de quelques expériences publiques, commençons. Bon, voilà, c'était l'occasion de faire la relecture de quelques expériences publiques et privées. Commençons par les expériences publiques. Qu'est-ce qu'on peut retenir là-dessus?
Alors, les expériences publiques, nous les avons regroupées, si on peut dire, autour de cinq grands moments. Il y a donc celui qu'on a appelé le mythe de la civilisation, qui est lié en fait à la colonisation Léopold II et les Belges. Le deuxième moment, c'est le mythe de l'indépendance, notamment autour de la figure de Kasavubu comme premier président de ce pays. Le troisième moment, le mythe de la révolution, autour de la figure de Mobutu, comme deuxième président du Congo indépendant. Et puis le mythe de la libération des Kabila, père et fils, qui ont été le troisième et quatrième président de ce pays et qui l'ont géré, donc, si on peut dire, sous le mythe de la libération. Mmh. Et enfin, le mythe de la démocratie, qui a été pendant une trentaine d'années porté par Étienne Tshisekedi Mulumba et qui est aujourd'hui porté dans la gestion politique par son fils, l'actuel président de la République démocratique du Congo. Donc un peu, on a essayé de relire en fait l'histoire du pays par rapport aux différents mythes de développement qui lui ont été offerts par, si on peut dire, les cinq grands régimes politiques que l'on a connus. Alors, les conclusions, elles sont complexes parce que ces différentes approches. On a eu au total dans la salle 23 conférences. Il y a d'autres conférences qui ont été données en ligne. Donc, approche plurielle avec les contradictions normales qui apparaissent et le débat dans un. Mais globalement, tout le monde s'accorde pour dire que le Congo est largement en deçà des différents mythes qui lui ont été vendus. Le mythe de la civilisation, chaque mythe nous a fait du bien, mais chaque mythe nous a fait aussi du mal. Et donc la conclusion, c'est celle-là, c'est que nous sommes largement en deçà des différents mythes qui nous ont été présentés, alors que les ressources matérielles, les ressources humaines, les ressources culturelles abondent dans notre pays.
Bien, alors maintenant, par rapport au secteur privé, quelle relecture vous avez pu faire par rapport à ça?
Alors là, on s'est intéressé principalement aux ASBL, les associations sans but lucratif. On a essayé de nous situer d'abord du point de vue du cadre légal, du cadre juridique, un peu les statuts juridiques des associations sans but lucratif en République démocratique du Congo, justement pour voir quel est l'espace que l'État, la loi leur accorde et dans quelle mesure elles peuvent contribuer elles aussi à la réalisation de ces rêves-là. Alors on a analysé quelques modèles seulement. On a pris le modèle catholique, donc parce que l'Église catholique est là, évangélisation, pastorale, charité et tout. Donc on a pu, un professeur a pu nous présenter un peu le rêve catholique de développement du Congo et comment cela fait. Et une prof qui est protestante, une prof à l'UPCC, la professeure Lise Vibi Lavoidi, a présenté la question du point de vue de l'Église du Christ au Congo. Là, on est passé donc des institutions, si je peux dire, d'église à des ONG ou à des initiatives privées. Et là, par exemple, on a abordé la question à partir d'une coopérative qui existe dans le Kasaï central autour de Kamutanga, donc la coopérative Bidiap Bidiap, qui travaille dans le développement dans ces coins-là depuis presque 40 ans. Donc, voir un peu qu'est-ce qu'ils offrent comme modèle de société et comment ils ont travaillé et comment, quelles sont leurs réussites et leurs échecs. On a aussi abordé une autre expérience, c'est celle qui est réalisée par le père Charles Kusika, qui est longtemps installé à Kimpese, qui a créé un institut supérieur de techniques appliquées, de chimie agroalimentaire. Et donc, un peu son modèle, comment, d'ailleurs, il avait introduit sa conférence par une affirmation, donc, comme quoi, en important, par exemple, du dehors, le Congo s'intoxique. En fait, le Congo est dans une espèce de dilemme. Mourir de faim ou importer des aliments toxiques. Et pour lui, donc, il montre comment, à partir de nos potentialités, notamment à partir du manioc, on peut parvenir à répondre à nos besoins. Mais alors, ces lectures ont été aussi croisées avec d'autres expériences. Par exemple, le premier jour, quand on a parlé des rêves qu'offre l'État, on avait un professeur du Japon qui nous a présenté le secret du modèle japonais. Et quand on a abordé la question des Asbel en République démocratique du Congo, il y avait un prof du Bénin qui nous a présenté le modèle, un peu un modèle mixte, deux modèles en fait, celui du fameux centre Songhai, qui est un modèle privé, un rêve privé si je peux dire, et celui du GDIZ du Bénin, qui est un modèle de l'État, avec déjà une industrie locale qui fonctionne. Voilà un peu. Et puis, bon, nous autres aussi, moi-même, comme conférencier, j'ai essayé un peu de présenter ma conférence, c'était la conférence inaugurale, qui prend ses racines dans la petite association que nous avons fondée, et le titre, c'était « Voler ou travailler, un autre paradigme pour comprendre le Congo ». Voilà un peu les grandes analyses. Et puis, il y a eu le troisième axe qui a abordé, si je peux dire, des utopies d'avenir, présenter quelques utopies d'avenir. Voilà un peu comment le travail s'est passé.
Bien, comment repenser le développement de la RDC? On va accueillir les auditeurs. Astik, vous êtes à Kalemie et Blaise Saïdi, vous nous appelez depuis la ville de Kisangani. Astik, bonjour.
Bonjour, cher Jody.
Quelle est votre question, Astik?
Merci beaucoup. Je salue d'abord notre invité. Je salue tous les auditeurs de Paris Service qui suivent partout, qui suivent le radio. Ma question, je n'ai pas de question, mais j'ai une réflexion sur le développement de notre pays. Le développement de notre pays, d'abord, doit être basé sur le problème gouvernemental congolais. Est-ce que l'autre gouvernement pense comment développer notre pays? Et le particulier accompagne comment le développement? D'abord sur le gouvernement. Le gouvernement doit réfléchir sur comment appuyer les investisseurs en allégeant les différents taxes. Trop de taxes tuent le développement de notre pays. Et non appui au particulier sur les différents allègements et l'orientation et montre que notre développement sont très faibles. Je peux prendre un exemple. Après le démembrement du Grand Katanga, notre ville de Kalemie, la province de Tanganyika en général, est en dessous du développement. Il n'y a pas un accompagnement de développement, même en infrastructure, même, et je ne suis pas dit de comment. D'abord, le niveau gouvernemental n'a pas une politique du développement. Et puis, la pérennisation des infrastructures qui montrent un développement n'est pas apparue.
Merci. Merci Astik qui... D'accord, on a compris, vous demandez que le gouvernement puisse appuyer, favoriser l'investissement, appuyer les investisseurs et les initiatives privées qui contribuent au développement du pays. Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Oui, bonjour cher Jody, bonjour à l'invité ainsi que auditrice de la Radio Capitale.
Quel est votre préoccupation?
Le développement de la RDC ne peut être réelle que si elle, s'il repose sur une bonne gouvernance que le premier auditeur avait parlé. Une gestion responsable des ressources naturelles et une diversité économique inclusive. Les pays doivent investir dans l'éducation, l'agriculture et les infrastructures pour garantir un progrès durable. Voici quelques questions que je vais poser à l'invité cher. La première, quelle place l'éducation et la formation professionnelle doivent-elles occuper dans la planification, pardon, dans la relance du développement congolais? Je reviens pour cette question. Et dans quelle place l'éducation et la formation professionnelle doivent-elles occuper dans le développement congolais? La deuxième question, comment renforcer la gouvernance et la transparence dans la gestion des ressources naturelles du pays? La troisième question, quels sont les principaux obstacles structurels qui freinent le développement durable de la RDC? La quatrième question va déchiter. Comment lutter contre la corruption?
Oui, comment lutter contre la corruption? Merci beaucoup. On va donner la parole à Éminent Mwanda de Bukavu. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à Kassim Apou. Et bonjour aussi à Grâce et Patrick, monsieur, et tous les messieurs de la radio.
Quelle est votre question rapidement, Éminent?
Oui, oui. Je parle directement aux questions. La première question est de savoir pourquoi la RDC, pays potentiellement le plus riche d'Afrique, reste-t-elle parmi les plus pauvres du monde? Deuxième question, la décentralisation a-t-elle réellement contribué au développement local de la République démocratique du Congo? Troisième question, à qui profite l'exploitation brute des minerais congolais? Quatrième, comment la RDC peut-elle transformer sa richesse minérale à une humaine? Et enfin, le modèle économique actuel de la RDC est-il soutenable à long terme?
Bien, merci pour toutes ces préoccupations. Le modèle économique de la RDC, etc. Monsieur l'abbé Apollinaire Tshibaka, vous avez la parole.
Bon, je pense que les différents aspects auxquels touchent nos intervenants ont été aussi touchés par les conférences qui ont été présentées. Mais alors, si on me demandait ma position, elle est dans ma conférence. Pour moi, ce pays n'avance pas pour une simple raison, c'est la kleptoculture, la culture du vol. En fait, ça n'avance pas, c'est pas parce que on aurait, je ne sais pas moi, quelle déficience raciale ou je ne sais pas quoi. Ça n'avance pas tout simplement parce que nous sommes des voleurs, en fait. On est dans une culture du vol. Et pour moi, sur ce point-là, on peut dire que Kinshasa a échoué. En fait, le pays n'avance pas parce que Kinshasa a échoué. Kinshasa, comme capitale, a échoué. D'ailleurs, Kinshasa est le visage de notre échec. C'est une ville où la circulation est chaotique, où l'insalubrité est totale, le bruit est permanent. On ne mange pas là-bas ce qui est produit au Congo, tout est importé. Donc la liste est longue. Et donc c'est le temple. En fait, Kinshasa est le grand problème du Congo. Si on veut renverser cette culture du vol, il faut commencer par, en quelque sorte, je peux dire, exorciser Kinshasa ou libérer le Congo de Kinshasa. Parce que c'est une capitale qui a raté sa mission, en fait. Elle n'est modèle en rien pour le reste du pays. C'est probablement la tombe du Congo. La tombe du Congo est à Kinshasa. Et donc, il faut repenser, en fait, cet état. Et j'ai vu, là, on a touché la question de la place de l'éducation, la place de la formation professionnelle. Mais ce sont les lieux de la construction. Jusqu'à présent, ça fonctionne comme lieu de la construction de la culture du vol. Dans ma conférence, c'était ma thèse que j'ai défendue, donc on peut prendre dès le début. Le feu colonial en lui-même, c'est du vol. L'État néocolonial qui est venu a été organisé aussi autour de ça. le mythe de la démocratie, vous pouvez voir comment se déroulent nos élections et tout. Donc, c'est là aussi, c'est du vol. Il y a un problème au niveau de notre la conscience morale construite à partir de notre héritage ancestral. Vous verrez que chez nous, dans notre ici, donc les gens volent. Ils ont peur peut-être des féticheurs ou des sorciers ou des je ne sais pas quoi. Ils ont peur d'être attrapés. Mais la conscience que le faire est un mal en soi et que je m'interdis parce que c'est un mal en soi, c'est un problème. Nos écoles, comment relancer l'éducation en faire de l'école le moteur du développement, c'est un problème parce que nos écoles sont structurées autour du vol, en fait. Vous prenez nos universités, c'est autour du vol, de la corruption, de ceci, de cela. Vous prenez les ONG en majorité aussi, ça travaille, c'est du vol. Si vous prenez la religion, c'est la même chose. Donc, les gens d'ailleurs m'attaquent en disant, mais vous êtes prêtre, vous dites ça. Écoutez, oui, il faut reconnaître que le christianisme tel qu'il se pratique aujourd'hui chez nous est un problème. C'est généralement des structures de vol. Il y a des gens, ou des prêtres, ou des pasteurs, qui commencent par vous voler votre intelligence parce qu'ils vous versent plutôt dans la prostitution. Ils vous volent le temps du travail. Ils vous volent... Il y a une étude qui a été présentée pendant la conférence. Oui. Combien les églises rançonnent les fidèles? Par exemple, les revenus, une étude faite à Mouenéditou démontre que les familles consacrent 24% de leurs revenus à la dîme et aux différentes offrandes. Et donc, c'est une structure de vol qui fonctionne aussi là. Donc, on peut étendre. Donc, le grand problème que nous avons, c'est un problème moral, en fait. On est dans la kleptoculture, donc la culture du vol. On n'est pas encore dans la culture du travail. Et donc, il faut donc cette mutation morale-là. Et cette mutation morale, pour qu'elle puisse s'effectuer, il nous faut repenser ce pays. Il faut repenser la place de Kinshasa. Si, il ne faut pas peut-être changer de capitale, créer une nouvelle cité qui amène un autre esprit ou je ne sais pas quoi. Il faut probablement...
Renforcer
la 4e République.
Ou peut-être renforcer la décentralisation.
Non, le vol, il est partout. Prenez n'importe quel service de l'État, ça va? Il y en a un qui a évoqué, c'est pas moi, la fiscalité, des taxes qui découragent les investissements. Mais prenez ça, prenez ces services-là. Quand vous les fréquentez, vous savez comment c'est organisé. C'est-à-dire, la corruption, disons, le vol, quand on dit corruption, le vol est installé dans pratiquement toutes nos structures. Pas seulement les structures publiques. J'ai parlé des religions, donc... Lorsqu'un pasteur fait du tapage la nuit, il vous vole votre sommeil. C'est un voleur du sommeil. Il vous vole votre paix. Il vous vole votre silence. Et il finit par vous voler votre argent avec ses 24% de, c'est pas moi, des contributions, des dîmes ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est tout ça. Donc, il faut qu'il y ait la volonté de repenser et de dire, écoutez, on passe à une autre république, probablement la 4e république, sur des bases morales solides, et repenser la forme de l'État. Dans ma proposition, je disais, mais est-ce que l'État tel qu'il fonctionne, c'est un État, en fait, on a superposé des structures d'État. Et, par exemple, nos villages, vous avez le pouvoir de l'État central, mais il y a l'État ancestral qui est là, avec nos chefs coutumiers. Peut-être que si on créait des espaces, si les espaces ruraux, leur gestion, excepté peut-être la sécurité, la police, je ne sais pas quoi, leur gestion était confiée aux chefs coutumiers, élu dans le respect des normes, parce que là aussi c'est un espace où il y a beaucoup de vols. Donc si c'était fait, peut-être qu'on volerait moins, peut-être qu'il y a... si le chef coutumier c'est mon oncle, je vais aller le corrompre, pourquoi, voilà. Donc les choses fonctionneraient autrement. Donc le colloque a essayé d'inviter au courage de dire parce que on est là où nous sommes, pourquoi ne pas penser une nouvelle république où les choses peuvent se faire autrement. Et ça aboutit à ce que le thème de notre prochain colloque, le 6e, porte effectivement sur l'État. C'est-à-dire la révolution viendra d'un État, le changement viendra d'un État qui réussisse à imposer d'abord un ordre moral, qui réussisse à combattre la kleptoculture et qui puisse promouvoir ce qu'on a appelé la copoculture, la culture du travail. Sans cela, tout le reste, nous perdons notre temps. Et là, Kinshasa a échoué, et je ne sais pas si Kinshasa, en tant que capitale, a la force morale de porter le changement dans ce pays.
Bien, on va accueillir Ismaël Mompoy qui nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour Ismaël. Allô Ismaël, bonjour.
Bonjour Jody.
On vous écoute.
Bonjour Jody. Bonjour. Tibaka. Premièrement, d'abord féliciter M. Tibaka parce que la potentialité qui est en lui marque d'abord la volonté de faire quelque chose. Vous regardez même ses écoles. Bien que l'argent là ne manna pas de ses poches, mais c'était donné du bien, du temps et du mal, gaspiller son énergie pour développer d'abord les milieux. Donc c'est une personne qu'on peut faire la confiance. Si nous touchons par exemple la facette des personnes que nous pouvons faire confiance aujourd'hui, ou la question qui peut se poser, à qui pouvons-nous ou peut-on faire confiance aujourd'hui? Parce que le monde que nous sommes, que nous vivons aujourd'hui et les hommes que nous avons aujourd'hui ont une mentalité tournée vers soi-même, qui n'ont pas besoin de développer d'autres. Vous allez dans l'administration publique, ce sont les détournements des vols, on peut même qualifier des vols.
Oui.
De l'État. Vous allez dans les ONG2, c'est la même chose. Quand quelqu'un touche l'argent, il prend même des photos de certains champs, il publie pour les donateurs, c'est ça ce que j'ai fait. Comme la question qui se pose, à qui peut-on faire confiance? Je pense que la génération que nous avons aujourd'hui montre un peu ses limites et sa manière de faire. Mais si nous voulons développer notre pays, M. Tibaka, qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais la fois passée, je vous avais dit même que j'ai l'envie d'envoyer mes enfants dans tes écoles parce que tu es un bienfaiteur, tu as montré de quoi tu es capable. Mais comment détecter et déterminer que cette personne est sincère pourvu que nous puissions les faire confiance. Si nous avons quelque chose à développer nos milieux, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que maintenant, nous n'avons pas le choix. Et nous ne pouvons rien faire confiance à une personne congolaise, surtout cette génération, et surtout ceux qui gèrent, que ce soit pour les églises, ils sont tournés vers l'argent et vers l'escroquerie. Et quelle attention la population congolaise pour éviter les croqueries et les vols. C'est ça quand même.
Vous dire. Merci Ismaël Mompoy depuis Lubumbashi. Monsieur l'abbé Apollinaire.
Bon, je dis un grand merci à Ismaël. Ça va, bon. Merci bien pour tout ce qu'il a dit sur ma personne. Mais je dois dire que on est plutôt une équipe et une équipe qui est appuyée par d'autres personnes. Je pense personnellement que et c'est possible de changer ce pays, et il est en train de changer. Mais maintenant, il faut avoir le courage de responsabiliser davantage les communautés, de les impliquer davantage dans le processus de leur développement. Si vous prenez, par exemple, l'État congolais investit beaucoup d'argent dans le développement. Mais quel est le droit de regard que les communautés locales ont sur cet argent-là? Lorsque quelqu'un a gagné, par exemple, 5 millions de dollars pour reboiser une zone, à qui rend-il compte? Est-ce que la communauté locale, les paysans qui habitent les villages où on doit faire le reboisement, sont-ils informés? Est-ce qu'ils contrôlent? Parce que est-ce qu'ils contrôlent tous ces processus-là? C'est là que j'ai dit que je pense qu'il faut repenser Kinshasa. Il a échoué, il faut le reconnaître, et dire quel type d'État nous avons besoin pour que tout ce que l'État investit dans le développement de cette population puisse vraiment profiter à cette population. Sinon, s'il y a des centres de pouvoir, des centres de commandement qui investissent de l'argent dans l'arrière-pays, et on ne sait pas suivre cela. Nous qui vivons dans les villages, vous pouvez voir un jour des engins atterrissent, on vous dit qu'on va arranger cette route. Et puis, après un mois,
l'argent disparaît.
Cinq mois, et puis les engins, on les voit repartir un à un. À qui rend-on compte de cela? Donc, je pense qu'il y a... ça, c'est un problème fondamental. Donc, on doit mettre des mécanismes pour que les voleurs ne volent pas facilement.
Alors, monsieur l'abbé Tshibaka,
les voleurs volent facilement, oui.
Si je comprends bien, le développement de la RDC commence par la restauration des valeurs morales. On doit d'abord travailler sur le plan des valeurs.
Oui, absolument. Nous sommes en fait, notre pays, il est tué par le vol, par ce que j'appelais la kleptoculture. C'est la culture du vol chez nous. Et les gens volent sans aucun problème de conscience. Et c'est ça qui détruit notre pays. Notre pays, il est plein. Allez ailleurs, les Congolais, vous les trouvez ailleurs, c'est dans d'autres pays, ils sont brillants, des grands ingénieurs, des grands ceci. Il y a un qui m'a réussi dernièrement dans son laboratoire en Belgique. Il m'a montré des machines qu'il a inventées, lui, le Congolais. Et il est respecté là-bas. Mais ce monsieur, s'il vient ici, il devient inefficace. Pourquoi ? Parce que l'environnement est un environnement du vol, ou de détournement, disons. Il faut appeler vol tout simplement, parce que détournement, ça semble un peu détourné.
c'est toujours le vol.
La première maladie de notre pays, c'est le vol, en fait. Mmh. Et il affecte toutes les structures de notre société. Et tant que, si on veut faire décoller ce pays, il faut prendre des mécanismes pour prévenir le vol et sanctionner sévèrement le vol. D'ailleurs, dans le débat, quand on discutait avec les autres, on a évoqué, la possibilité. Peut-être s'il y avait la charia ici, ça, mais bon, c'est inhumain de toute façon. Oui. C'est-à-dire sanctionner le vol et sanctionner sérieusement. Parce que lorsque quelqu'un a détourné, on a dit qu'il a détourné, et puis trois jours après, vous le voyez...
Déambuler, tout ça.
Oui. Oui.
L'impunité.
C'est ça qui détruit ce pays, l'impunité. Et donc, les gens volent facilement et ils ne sont pas punis. Et ils ne rendent pas ce qu'ils ont volé. Et donc, vous pouvez faire un recensement. Donc, on peut, vous pouvez faire le recensement depuis Kassavubu jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi la ville de Mbujima est une ville qui est en train de renaître. Mais pourquoi ça ne s'est pas fait avant? Pourquoi est-ce que maintenant nous avons des routes asphaltées ici? Qu'est-ce qu'il y a eu dans ce pays aujourd'hui pour qu'on ait des routes asphaltées? Et pourquoi on l'a passé pendant 65 ans? Je suis recteur d'une université qu'on vient de construire. Pourquoi ça a été construit seulement maintenant? Est-ce que maintenant on n'a plus de moyens qu'il y a 40 ans? Et donc, il y a quand même un problème moral fondamental qui se pose et qui affecte toutes les structures de la société. N'importe quel service ici, vous pouvez aller avec un peu d'argent, vous avez ce que vous voulez. Et un diplôme, ça peut s'acheter ici. Les résultats, ça se derrière.
Monsieur l'abbé Tshibaka, est-ce que la RDC sera au rendez-vous de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable des Nations Unies?
On est à 5 ans là. Non, je pense qu'on continue à faire partie du club de 5 pays les plus pauvres au monde.
Bien, on va accueillir Papi Moyo.
Pensons-nous à partir de notre propre agenda. Ça fait 140 ans, c'est vrai, 140 ans, on est un jeune pays. Mmh. Mais il faut qu'on aille dans le bon sens. Et il y a des indices, comme je l'ai dit. Bon, je parle à partir de Mbujimayi pour dire que, on a de l'eau, on a ceci. À Dieu merci. Donc, c'est faisable. On peut le faire. Un peu de bonne volonté, on peut le faire. Et prévenir le vol, châtier les voleurs, ça va aider ce pays à décoller. Et donc, il nous faut un pouvoir très fort sur ce point-là, qui puisse réformer ce pays.
Bien. On va accueillir Papi Mboyo depuis la ville de Mbandaka. Bonjour, Papi.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité, ainsi que aux auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, monsieur Mboyo.
Étant donné que le sujet nous touche, merci beaucoup. Étant donné que le sujet nous touche, monsieur Jody, nous sommes les agents du développement. Je viens de finir ici à l'île de Mbandaka, où c'est une institution où on forme les gens du développement. Et dans ce pays, nous, dans notre formation, on nous a appris le développement. Le développement a milliers de définitions. Mais dans l'une des définitions, on nous dit, c'est aussi un état d'esprit, comme le venait de m'appeler l'invité. C'est aussi un état d'esprit. Pour que quelqu'un soit développé, il faut que l'esprit se change. Comme ici, c'est nous, c'est un problème de détournement qui est à la base, il y a les vols et tout comme l'a si bien dit m'appeler l'invité. C'est vraiment, si les gens ne changent pas les comportements, leur esprit, on serait toujours dans les chaos. Et moi, j'aimerais aller tout droit dans les petits soucis demandés à l'invité. Étant donné que l'agriculture aujourd'hui dans notre pays est aussi parmi l'un des moteurs du développement, que l'invité nous dise des choses. Pour l'agriculture, comment est-ce qu'on peut faire? La première question serait celle de savoir, M. Jody. Comment est-ce qu'on peut maintenir le développement durable? Parce que le développement durable dans Massachusetts, on nous dit que c'est préparer l'avenir aussi. Donc vous déboisez, vous déboisez pour que la génération future ne vienne pas compromettre. Vous ne pouvez pas les compromettre, vous ne pouvez pas les mettre en difficulté lorsqu'ils seront là. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre des mécanismes pour maintenir ce développement durable? Ça, c'est de un. De deux, je voudrais demander à l'invité quel impact socio-économique pour que le développement soit pérennisé. Je ne sais pas si je vais faire comprendre, mais je dis.
Oui, oui, d'accord. Pour le pérenniser, okay, il faut d'abord que ce développement existe d'abord.
Oui, mais maintenant, nous sommes en train d'étudier comment remettre le développement au sein du pays.
OK. Une autre question?
Alors, OK. Oui, une autre question, oui. Comment remettre ou stabiliser durablement le développement alors qu'il y a un problème ici au pays de routes? Il n'y a pas de routes de fête agricole fiable. Je vous disais tantôt, nous sommes en Mbandaka. Nous avons beaucoup de territoires, beaucoup de villes environnantes qui alimente la ville dans des produits de première nécessité, hein, des produits agricoles.
Oui.
Mais on a des sérieux problèmes pour la route. Alors qu'il n'y a pas de route, comment est-ce que nous allons reprendre le développement? Et pour finir, il n'existe pas de banque agricole au pays. Pourquoi? Parce que c'est là aussi pour être un élément pilier pour amener aussi au développement, pour bosser au développement du pays. Quelle invité pour nous éclairer là-dessus? Merci, M. Jody.
Bien, merci. M. Labbé Tibaka, à vous la parole.
Bon, comme vous le dites, je suis un abbé, donc je suis spécialiste plutôt un peu de la foi et de religion. Mais bon, je me retrouve j'en suis un autodidacte, j'ai pas de réponse à donner. Papi Mboyo a fait justement l'ISDR. D'ailleurs, au colloque, on avait invité le DG de l'ISDR Tibashi, qui nous a parlé de éduquer pour le développement et comment est-ce que son institut forme les futurs agents de développement.
Oui.
Et ce n'était pas seulement de la théorie, mais il était accompagné avec lui d'un étudiant qui est entrepreneur, qui, à partir de ses études, a déjà créé une entreprise qui a déjà, je crois, 3 ou 4 prix internationaux. Il a participé à des concours et son entreprise est en train de croître. Maintenant, pour parler de la question de l'agriculture, je pense qu'elle est fondamentale. Donc, un ventre affamé n'a point d'oreille. Et d'ailleurs, le professeur japonais qui a participé au colloque avec nous, le professeur Keiichi Ishii, il nous a parlé, lui, du miracle japonais. Quels sont les secrets du miracle japonais? Comment est-ce que le Japon, qui était totalement détruit à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, est passé à la prospérité? Et l'un des secrets pour lui, c'est le secret agricole. Donc, pourquoi un peuple qui ne parvient pas à se nourrir parce qu'il produit sur sa propre terre, est un peuple qui s'appauvrit parce qu'il devra tout le temps importer ce dont il a besoin pour d'abord survivre. Et c'est le drame de notre pays, en fait. Notre pays importe pratiquement tout ce qui se mange à Kinshasa est importé.
Oui.
Et ça ne vient pas de nous. Il y a le Bandundu envoie je ne sais pas quoi, le Congo central, quelque chose. Mais principalement, nos denrées de première nécessité, nous les importons. Alors que le Congo a, je ne sais pas si mes chiffres sont corrects, 120 millions d'hectares de terres arables. Le Congo, si on travaillait au Congo, on donnerait à manger à toute l'Afrique. En fait, qu'est-ce qui se passe chez nous? C'est que nous ne travaillons pas. Au lieu de travailler, nous sommes dans le vol. Donc, on ne travaille pas, nous ne sommes pas des travailleurs. On est un peuple paresseux, si je peux ainsi dire. Donc, on a une terre généreuse, avec une pluviométrie exceptionnelle. Mais nous importons tout. C'est comme ça que, en fait, le Congo se développe sur les frontières. Si vous voyez, les gens vont peut-être partir du Kasaï vers le Katanga, et oui. Ils vont partir vers je ne sais pas où. Ceux qui sont en France, ils vont vers là. Pourquoi? Parce que c'est par là qu'entre la nourriture moins chère. C'est par là que, en fait, nous vivons de l'importation. Le peu de travail que nous faisons, c'est pour acheter des choses de base dont nous avons besoin. C'est irrationnel. Même l'eau à boire, même les cure-dents, nous les importons. Donc, c'est ça le problème dans ce pays. C'est pourquoi, dans ma conférence, j'ai proposé donc de la kleptoculture à la copoculture. En fait, il faut passer de la culture du vol. Et la culture du vol, c'est la culture de la paresse. C'est la culture des gens qui vont passer des heures dans des temples à demander à Dieu je ne sais pas quoi, alors qu'ils devaient passer des heures dans des champs à cultiver, à demander à la terre qu'elle leur donne, qu'elle leur rende en centuple les graines, les semences qu'ils lui ont confiées. Et donc, il faut cette mutation-là, il faut cette mutation culturelle, mentale, morale, pour que nous comprenions que nous commencerons à nous développer le jour où nous allons demander à cette terre de nous nourrir. Et on demande à la terre de nous nourrir, non pas dans des prières, mais par le travail, par la sueur. Et je pense que le président de la République, Chilombo Tshisekedi, a parlé de la revanche du sol sur le sous-sol. En fait, c'est ça que se trouve. Donc, un peuple qui est incapable de se nourrir, c'est un peuple malheureux. Donc, nous importons, c'est pas des impios qui les chinchards, tandis que dans nos rivières, des poissons meurent de vieillesse. C'est impensable, en fait. Nous sommes un peuple, en fait, un peuple de voleurs. Et les voleurs, eux, ne travaillent pas. Ça va. Les voleurs ne travaillent pas. Ou s'ils travaillent, ils font des plans pour voler. C'est ça notre problème.
Bien. Et les voleurs...
Quand on va investir dans l'agriculture,
oui.
Investir intelligemment. Vous avez des grands pauvres comme Bukangalonzo, ça donnait quoi? Si cet argent-là, il y avait une politique pour accompagner les véritables paysans qui sont là.
Et les voleurs, tant qu'ils ne sont pas sanctionnés, bon, et voilà, c'est la foire qui continue.
Ah oui, ça va continuer. Et vous voyez, c'est des sommes, parfois, vous vous dites, écoutez, moi je suis un petit paysan. J'ai vu quelque part, on a élevé 3000 poules, on a investi 5 millions de dollars pour élever 3000 poules. Vous vous imaginez 5 millions de dollars pour élever 3000 poules. 5 millions de dollars de l'État congolais pour élever 3000 poules. Alors moi qui suis paysan, moi qui ai une ferme de qui élève plus de poules que ceux qui ont réussi 5 millions, vous vous dites, mais s'il y avait un plan pour dire, voyons qui sont des paysans qui dans des villages sont entreprenants. Est-ce qu'on peut les accompagner? Je pense qu'on aiderait ce pays à résoudre beaucoup de problèmes.
Bien, on va accueillir Patrick Néron Kadiata depuis Mouenéditou. Bonjour Patrick.
Bonjour cher Jody, bonjour à l'invité, aussi à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute monsieur Kadiata.
Et en tout cas, moi j'avais une petite idée que je voulais contribuer à ce débat.
Oui.
Vraiment... Mais tout d'abord, je commence par condamner, en tout cas, tous les anciens régimes de notre pays ici, parce qu'ils n'avaient pas l'amour envers leur population, leur peuple, pour l'avancement de ces pays.
Bon, Patrick, les condamnations, bon, vous avez dit que vous avez une contribution, et c'est laquelle?
Oui, alors, moi j'étais en train de dire que l'attitude qui manifeste vraiment des autorités envers les peuples ou la population congolaise vraiment ne suffit pas. Pourquoi? D'abord, la population vit d'abord dans la pauvreté. Alors, pour que ce pays soit un peu compté parmi les pays riches d'Afrique ou du monde, il faudrait d'abord les investissements, par exemple, dans l'agriculture, là. Il faut que l'agriculture soit mécanisée. Si vous allez dans des zones frontalières, vous ne trouverez jamais, je vous dis, notre pays, ce qui fait sortir un peu, donc, il fait quoi? L'exportation, je dirais. l'exportation des biens pour aller dans, en étranger, pour les amener en étranger. Il y a que l'importation. Vraiment. Jusqu'à quand aller à Lubumbashi du côté de la douane de Katumbalé, ça, vous trouverez qu'il y a tellement que les véhicules là qui entrent, mais ceux qui sont dans notre pays, il n'y a rien absolument. Même les ciments, les maïs, tout vraiment. Il faudrait mécaniser même l'agriculture, donc le secteur agricole. À part ça, l'élevage aussi. Chez nous, ici, si vous élevez, c'est tout un problème ici dans la province de Lomami. Si vous allez dans les entités rurales, c'est tout un problème pour les gens qui élèvent chez nous. En tout cas, vous élevez, vous avez 5 porcs, déjà les gens commencent à jalouser ces porcs-là. Parce qu'il y a tout ça où on va te conditionner, tu dois avoir des enclos où les porcs-là vont manger les maïs d'autrui. Quelles sont les qualités des champs qui sont aux environs des gens là-bas que les cochons
aillent? Mais pourquoi vraiment vous aussi, M. Kadiata, vous élevez les porcs, mais il est important de prévoir un enclos, sinon ils vont aller manger les maïs des voisins.
Je vous dis, ici, c'est exagéré. Il y a un monsieur là qui vraiment tracasse les gens pour les porcs. Là. Donc, s'il attrape seulement les porcs dans les champs, il tue directement sans même vous signaler. On attrape d'abord les porcs, après tu recherches les propriétaires. On ne passe mais il l'attrape, généralement il
tue. Et il tue directement. D'accord, merci beaucoup. On a retenu votre préoccupation, donc investir dans l'agriculture et dans l'élevage. Elvis Kaoya, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, j'ai dit. Bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute.
Ouais, c'est parce que nous sommes en train de parler de développement et l'invité est en train d'épingler les presque il a dit toutes les raisons, hein, les détournements, les vols. Alors nous sommes en train de nous prétendre que nous avons plus de 8 millions de terres arables.
Donc on parle de 80 millions de terres arables.
Alors est-ce qu'il n'est-il pas moyen? Ces terres-là, ça nous sert à quoi? Et d'aider, je voulais poser une question à notre invité. Est-ce que notre pays est en voie du développement? Est-ce qu'on est développé? Parce que le développement que nous avons parlé, ça doit être mental. Et avant qu'on arrive à un développement palpable, il faut d'abord que la personne congolaise soit d'abord développée, qu'il puisse avoir une nouvelle culture. Est-ce que à notre niveau, au niveau des autorités, est-ce que peut-on dire que les autorités d'abord sont-ils développées dans la psychologie à la base? Parce que nous avons aussi les services un ministère de pêche et élevage qui devait aussi s'en servir. Nous avons aussi vu les bateaux de pêche qui sont arrivés. On a vu les images. Alors, est-ce que doit-on continuer toujours à acheter des chachards toujours de l'étranger? Des cure-dents, même des biscuits que nous vendons, des biscuits comme les que nous vendons ici, de Bistella, qui sont exportés de Brazzaville. Mais je peux dire que dans notre pays, tout est exploité. Alors, à part les neuf ou les neuf matières premières que nous avons dans notre pays, alors, qui sont importées. Alors, presque tous les denrées alimentaires, même les tomates et qu'on va en bon marché, sont importées. Alors, est-ce que l'invité peut nous dire que nous sommes en voie, on est en développement, ou on doit encore prendre encore combien de temps pour qu'on puisse parler de développement dans notre pays?
Bien, merci Elvis Kaoya de Kinshasa. Monsieur l'abbé Apollinaire Tshibaka.
Bon, il faut dire que je n'ai rien suivi, j'ai pas suivi Elvis, je sais pas de quoi il a parlé.
Bon, Elvis, voilà, il est revenu sur les changements de mentalité. D'après lui, le développement doit partir de là.
Oui, oui, c'est ça. Ok, très bien. Je pense que peut-être c'est répéter la même chose, mais insister sur donc il y a la conversion morale qui est très importante, la culture du travail que l'on doit promouvoir. Vous voyez ici chez nous. Dès que quelqu'un entreprend quelque chose, il a pas seulement sa famille, mais toute la société sur lui. Donc il y a ce parasitisme social qui est aussi un facteur qu'il faut combattre. Donc il y a des gens qui ont du temps, non pas pour travailler, mais pour quémander. Et là, c'est dans la structure aussi de notre société, où les gens demandent plus facilement de l'assistance et parfois une mendicité agressive. Donc là, c'est important. Il faut que les gens, qu'on inculque aux gens dès le bas âge le sens du travail. Et ça s'apprend en famille, ça s'apprend à l'école. Mais lorsque un enfant à l'école primaire, à l'occasion, c'est pas moi, Ténasospe. Oui. Alors, lorsque ces enfants-là, on leur apprend déjà qu'il faut de l'argent pour réussir, en fait, on lui dit quoi? Dans la vie, le travail, ça ne sert à rien. Si vous avez un peu d'argent, si vous avez triché, vous avancez. Et donc, il y a cette culture du travail qu'il faut, on doit nous initier dès le bas âge. Et dans l'un des conférenciers, c'était érigé en fait contre tous les discours là-bas, les droits de l'enfant, où on nous demande en suivant je ne sais pas quel modèle que l'enfant ne doit pas travailler, ne doit pas faire ceci. Non, il disait, même dans les écoles, il faut restaurer cette discipline, cette initiation au travail, en famille et partout. Et on donne à l'enfant le travail qui lui convient parce qu'on vient au monde pour se battre. On n'est pas dans une société de l'opulence, où on est des héritiers. Ici, on n'est pas dans la culture de l'héritage, on est dans la culture du travail. Et donc, on doit nous inculquer cela. Et l'importance de l'agriculture est vitale. Donc, un peuple qui mange est un peuple qui a le temps de travailler, alors de penser. D'ailleurs, le slogan de notre petite association, c'est « Ditonga Mbukula Monyengo ». Ça veut dire « Mon pays, c'est là où d'abord je peux manger ». Et donc, je ne peux pas manger, lorsque mon pays n'est pas l'espace où je ne peux pas manger, et donc ce n'est pas un espace où je peux vivre. Et donc, il faut qu'on insiste sur cela, sur l'agriculture, sur l'importance. Vous voyez, ici au Kassai, bientôt, on va avoir la route de Kalambambouji. Mais ça risque d'être quoi? Tout simplement une route pour être inondée de produits angolais. Donc, ça va, tout simplement ça. Donc, il faut que ce pays change. On a besoin d'un pouvoir fort qui puisse le faire changer. On a tout pour être heureux, mais parce que nous sommes des voleurs et des paresseux, nous sommes malheureux.
Tout commence par la conversion morale.
Absolument. Et là, c'est l'une des missions de l'État. L'État peut imposer cela dans tout ce qui relève des espaces publics. Donc, quand l'État donne de l'argent pour construire une école, il doit y avoir des mécanismes pour se rassurer que ça servit à ça et qu'on n'a pas pris de photos quelque part. Moi, je me souviens une fois, il y a des gens qui ont justifié l'argent, c'est pas moi, d'un hôpital qui devait construire en prenant les photos des murs d'une prison que notre petite association a construit.
Et maintenant, les résolutions. Qu'est-ce que vous allez faire des résolutions du colloque? Est-ce que vous allez les présenter aux autorités au niveau provincial ou national?
Ah non, nous c'est un exercice intellectuel, académique. C'est une tradition que nous prenons dans notre village. Depuis 5 ans, on réunit entre 20 et 30 professeurs d'université qui passent ensemble pratiquement une semaine où... Et ils abordent une question, ils exposent, ils discutent. Voilà, c'est une réflexion, c'est un exercice académique.
Merci beaucoup, Monsieur l'Abbé. D'accord, voilà. Monsieur l'Abbé Apollinaire Tshibaka, recteur de l'université officielle de Mbujimayi et président du colloque interdisciplinaire d'Engana-Djiga. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.